Le journal avec Anne Fauconberg, bonjour.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. En Chine, les militants des droits de l'homme préoccupés par le sort de Lu Xia, c'est la veuve de Lu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, décédé au mois de juillet dernier. Lu Xia a disparu depuis les funérailles et selon son avocat, c'est le pouvoir chinois qui la détient. Avocat qui vient de porter plainte contre Pékin à l'ONU pour dénoncer sa disparition. À Shanghai, c'est une correspondance d'Angélique Forgé.
La dernière trace de la veuve de Liu Xiaobo, Liu Xia, remonte au 15 juillet dernier. Elle avait été photographiée par les autorités alors qu'elle dispersait en mer les cendres de son mari. Mais depuis, Liu Xia est introuvable, ni ses amis ni sa famille n'ont de ses nouvelles et le quartier de Pékin dans lequel elle vivait est quadrillé par les forces de l'ordre. Impossible pour les journalistes étrangers de s'approcher, ils sont immédiatement harcelés, parfois même violentés. Pour l'avocat américain du couple Jared Genser, elle serait détenue par les autorités chinoises dans un endroit inconnu. Il vient de déposer une plainte aux Nations Unies auprès du groupe de travail chargé des disparitions. Il exige une intervention urgente. Son objectif, c'est que l'organisation internationale demande à Pékin de répondre à ces allégations et que cela l'oblige à faire réapparaître Liu Xia. Elle pourrait ensuite quitter la Chine pour s'installer, pourquoi pas, aux États-Unis, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, dont les gouvernements ont appelé à sa libération. Liu Xia, poétesse, peintre et photographe, qui n'a jamais été jugée ni formellement accusée de quoi que ce soit, vit en résidence surveillée depuis 2010. Le pouvoir chinois la voit comme une menace et craint qu'elle ne devienne le relais de la parole de son mari.
Correspondance à Shanghai, signée Angélique Forgé. Le Venezuela s'apprête à vivre une nouvelle journée de manifestation. La coalition d'opposition au président Maduro dénonce avec force la fraude qui a entouré l'élection de l'Assemblée constituante le week-end dernier. Constituante dont la séance inaugurale est prévue aujourd'hui, même si le parquet général a demandé hier à la justice d'annuler son installation. En France, un migrant est mort après avoir été percuté par une voiture près de Calais la nuit dernière. La nationalité et l'âge de cette personne n'a pas été établi. Information de la préfecture du Pas-de-Calais. 450 migrants sont actuellement présents à Calais, selon cette même préfecture. 600 selon les associations humanitaire. Les syndicats de journalistes à Paris ont appelé hier à la libération du reporter Lou Bureau. Âgé de 27 ans, il a été arrêté la semaine dernière à la frontière entre l'Irak et la Turquie. Lou Bureau avait sur lui des interviews et des photos qui le montraient avec des combattants kurdes. Son père a pu le contacter hier soir. Il est incarcéré dans des conditions convenables avec un gardien anglophone pour pouvoir communiquer et un accès à une bibliothèque. Loïc Bureau, le père donc, veut convaincre les autorités turques que son fils n'est pas un terroriste. Interview de Pascal Roche de France Bleu Loire-Océan.
Moi, j'aurais tendance à vouloir croire encore que les autorités turques reviennent un peu en arrière et se rendent compte qu'il y a eu un affolement dans cette histoire-là et que quand ils ont trouvé des documents concernant le reportage que mon fils avait fait au Kurdistan syrien, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ça ne signifie absolument pas d'être un partisan des Kurdes syriens. J'ai espoir qu'ils se rendent compte de leur méprise et qu'ils se décident à une sanction civile, par exemple une peine d'exclusion du territoire pendant, on va dire, 5 ans, par exemple, je dis n'importe quoi, mais bon, j'ai espoir en fait que les autorités turques se rendent compte que non, enfin, c'est juste un jeune journaliste, ce n'est pas un terroriste pro-kurde engagé dans l'armée syrienne de libération du Kurdistan ou du PKK.
La SNCF a remis hier un rapport au gouvernement après la pagaille monstre créée par une panne dans la gare parisienne de Montparnasse le week-end dernier. 9 recommandations formulées, elles devront être engagées d'ici la fin de l'année. Recommandations qui portent sur les infrastructures, le plan de continuité du service et l'information aux voyageurs. Et c'est peut-être l'avenir du transport qui se dessine avec le projet Hyperloop, une capsule qui se déplace à très grande vitesse dans un tube. Projet d'une start-up américaine qui envisage une commercialisation à l'horizon 2021. Un deuxième test concluant s'est tenu cette semaine dans le désert du Nevada. Explication Antoine Poitou.
Paris-Marseille en 30 minutes, San Francisco-Los Angeles en 20 minutes. Ces chiffres à donner le tournis ne sont pas encore d'actualité, mais pourraient bien le devenir dans quelques années grâce à ce système de transport futuriste. Je vous en rappelle grossièrement le concept. Pas de rail, mais un tube basse pression dans lequel sera placé un pod, une sorte de petit wagon. Ça rappelle un peu le système des tubes pneumatiques qui ont fleuri au début du XXe siècle, mais à cela s'ajoute un procédé de sustentation magnétique qui ferait avancer et même léviter le wagon, ce qui permet d'éviter toutes sortes de frottements et donc de résistance. Une idée qui nous vient du richissime Elon Musk, qui a déposé cette idée sans brevet afin que d'autres, comme la société Hyperloop One s'en empare. Une technique également moins chère et plus facile à entretenir qu'un train classique et qui permettrait en théorie d'atteindre la vitesse folle de 1200 km/h. Alors en théorie, puisque pour l'instant la vitesse maximale atteinte en début de semaine par ce module expérimental, le One XP1, n'est que de 310 km à l'heure. Il y a donc encore du chemin à faire, d'autant qu'en plus de l'objectif de vitesse, il y a énormément de paramètres de sécurité à évaluer. Le français Systra, la filiale ingénierie de la SNCF, a d'ailleurs été sollicité pour certifier ce transport supersonique. Si ces tubes à grande vitesse devaient voir le jour, cela pourrait être en Europe. Le patron d'Hyperloop One a évoqué une ligne Bastia Bonifacio, 150 km en 14 minutes.
Précision signée Antoine Poitot. Enfin, focus sur un jeu vidéo original pour terminer ce journal. Dream Daddy, c'est son nom. Jeu indépendant qui a séduit plus de 100 000 personnes en une semaine cet été. Le concept, un père veuf arrive dans une ville avec sa fille et doit draguer d'autres papas célibataires. Si le phénomène est remarqué, c'est parce que la représentation homosexuelle et LGBT dans le jeu vidéo est assez rare, Mélodie Pépin.
Dans un monde où les héros sont souvent des hommes blancs, bodybuildés et hyper virils, voici Dream Daddy qui fait figure d'OVNI avec des personnages uniquement homosexuels mais tout aussi stéréotypés. Le blond façon Ken, le bad boy qui boit un peu trop ou encore le barbu avec un peu d'embonpoint. Ils sont sept dans un univers assez édulcoré et inhabituel. Corentin Benoît Gonin est journaliste spécialisé dans les jeux vidéo.
Ce genre de jeu s'adresse tout simplement à un besoin et c'est vrai que il y a souvent des critiques qui disent que le jeu vidéo grand public aujourd'hui n'est pas assez ouvert, n'est pas assez inclusif.
Il y a bien des tentatives chez les gros éditeurs qui mettent en scène des relations homosexuelles, mais de façon optionnelle et pas toujours bien accueillie.
Ça arrive parfois que ça crée des remous au sein de la communauté un peu plus conservatrice, traditionnelle, pleine de testostérone. Ça peut vite partir en insultes et en homophobie, ce genre de choses.
Elle ne va pas se normaliser, mais la représentation LGBT va continuer d'évoluer dans les jeux vidéo, assure la psychologue Vanessa Lalo, spécialiste des pratiques numériques.
Aujourd'hui, le jeu vidéo se mature suffisamment pour aussi pouvoir représenter un peu tous les publics. Ça devient aussi intéressant de voir ce que la jeunesse va faire aussi avec ces nouveaux codes.
Une mutation qui accompagne l'évolution de la société et à chercher surtout du côté des créations indépendantes, de plus en plus nombreuses et qui se démocratisent. C'est le cas de Dream Daddy qui a su se démarquer avec une com maîtrisée, assurée par des youtubeurs très suivis.
C'était Mélodie Pépin. Le temps de ce vendredi, persistance de forte chaleur dans le sud-est, arrivée d'une nouvelle perturbation avec de la pluie par l'ouest du pays. Vigilance orange canicule toujours en cours sur 15 départements, des Alpes de Haute-Provence aux Pyrénées-Orientales en passant par la Corse. Et les températures ce matin, déjà 18 à Lille et Paris, 21 à Strasbourg, 22 à Lyon, 28 à Marseille et Ajaccio. Cet après-midi dans le sud-est, ça va grimper encore jusqu'à 40 degrés. Journal préparé avec François-Charles Domergue et à la technique, c'était Pierrick Monsigny.